podcast de Vélo.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez aimé ce super jingle produit par les studios hollywoodiens, digne des plus grands noms. Ça m'a fait très rire, alors du coup je le teste et je verrai en fonction des retours de mes potes si je le garde ou pas. Je sais qu'ils vont me contacter pour me donner leur avis sur ce podcast, ce premier épisode. Ce premier épisode où j'ai fait une thématique qui sera le top 5 des questions que j'ai le plus souvent, en tout cas les plus pertinentes pour ce sujet, hein, celles qui méritent d'en parler rapidement. Donc voilà, j'ai sélectionné 5 questions. Mais avant, je vais vous faire une petite intro sur le déroulement des podcasts qui je suis très rapidement et ce qu'il faut attendre de ces épisodes. Voilà, les thématiques, elles vont être très, très larges concernant le vélo, mais voilà, il va y avoir un petit peu de tout à venir, tout ce que je peux prendre au fur et à mesure du retour des clients ou de ce qui me semble pertinent de vous raconter. Et pourquoi je le fais en podcast et pas en vidéo ? Parce que, pareil, j'ai un pote, il m'a dit « Pourquoi tu fais pas plutôt sur YouTube ?» Le podcast, c'est un format qui me plaît beaucoup, parce que vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir l'image quand je parle. De deux, ça me permet de l'enregistrer à peu près partout, que ce soit au shop, ou chez moi, ou dans ma voiture. Non, je déconne, je fais du vélo, oui. Donc voilà, je peux moduler un petit peu les enregistrements. Pour ça, j'ai un petit recorder, un petit enregistreur numérique portatif. Et ça fait très bien le job à peu près partout. Voilà pour le contexte. Pour la fréquence, je vais essayer de me tenir à un épisode par semaine. Ça va être très compliqué en fonction du rush que j'ai au shop. Parce que oui, je travaille seul dans mon atelier à Bordeaux. Donc je suis un peu au four et au moulin. Et des fois, il y a des semaines qui sont très très chargées. Et j'ai pas forcément le temps de dédier à ça. C'est pour ça que je viens aussi au format très rapidement. Il y aura peu ou pas de montage. C'est-à-dire que là, je suis en train de vous parler, il n'y a aucune note. Tout sort un peu tel quel. Et ce sera comme ça. Donc je vais juste monter rapidement un cut d'entrée, un cut de fin. Je couperai une partie si vraiment je dis trop de conneries. Ah oui, il y aura peut-être pas mal de gros mots. je parle comme ça vient. Je fais gaffe quand même à ce que je dis, hein. Tout ce que je dis je le pense, mais voilà, ça sort un petit peu à ma façon. On aime ou on n'aime pas le style, mais je ne vais pas forcément changer pour autant. Quoi dire d'autre? Je m'appelle Jérôme, je travaille dans le shop Help Vélo à Bordeaux. Vous pouvez, y a un lien clairement sur le podcast, voilà, si vous voulez voir un petit peu ce que je fais, la boutique, où elle se trouve, si vous voulez passer, si vous avez un problème de vélo, enfin bref, vous êtes les bienvenus à la boutique, qu'on en discute de vive voix. Quoi d'autre à dire sur les podcasts d'une manière générale? Oui, le format, moi, me plaît beaucoup, que ce soit pour parler de tout ou de rien, pas forcément sur le vélo, mais moi, j'en consomme pas mal sur Spotify, entre autres, et voilà, j'aime bien ces conditions d'écoute reposantes où j'ai pas à être fixe, où je peux faire autre chose à côté. Quand j'en ai marre d'écouter de la musique, typiquement, je me mets un podcast de n'importe quoi, d'une enquête criminelle ou ce mec est fou. Non, enfin de plein de trucs d'actualité. Peut-être vous faites la même chose, je sais pas. Voilà, je trouve ça assez divertissant et j'y viens encore une fois, c'est un peu le but de ces podcasts. C'est pas tellement vous donner une information cruciale, on n'est pas sur CNews ou au JT de France 2, voilà, ça se veut avant tout pour divertir. Donc si vous aimez un peu le style, la façon de narrer les choses, ben ça n'en sera que mieux, enfin pour vous. En tout cas, si vous aimez pas, désabonnez-vous vite, ou ne vous abonnez pas. D'ailleurs, c'est très bien parce que j'y pense. Sur ces podcasts Spotify, on ne peut pas nécessairement laisser d'avis ou de commentaires. Voilà, c'est le côté que j'aime pas forcément aux vidéos YouTube, même si ces podcasts, je vais quand même les mettre sur YouTube. L'audio, il y aura une image fixe et l'audio sera disponible sur YouTube pour ceux qui n'ont pas, par exemple, Spotify ou Apple Podcast, ou ceux qui sont tout simplement, ils aiment écouter sur YouTube de l'audio. Il y en a beaucoup qui le font, moi inclus. Donc voilà, ce sera comme ça, et vous pouvez pas forcément réagir sur Spotify. J'aime bien, voilà, ce côté, on écoute, si on n'aime pas, on n'écoute pas, mais on n'est pas forcément obligé de toujours réagir à la chose et donner donner des pouces en l'air, pouces en bas. Enfin voilà, je fais pas du racolage à l'abonnement ou à quoi que ce soit, je m'en fiche un peu. Si ça vous plaît, vous écoutez, sinon tant pis pour moi et tant pis pour vous surtout. Donc on en vient au sujet du podcast, qui sont les top 5 des questions clients que j'ai le plus souvent, en tout cas celles que je trouve le plus pertinentes. Et on y va pour la question numéro 1. Un vélo moderne sera-t-il aussi robuste que mon vieux vélo vintage? C'est à peu près ce qu'on me dit le plus souvent. Il faut savoir que mon shop se trouve dans le centre historique de Bordeaux, à proximité de Saint-Michel. On a beaucoup de vélos vintage, type vieux Peugeot, vieux motobécane, vieux Talbot. Et j'ai énormément de gens qui arrivent en me disant « Oui, mais mon vieux vélo, j'y tiens, il est super solide, il a 50 ans. Les nouveaux vélos, ils sont pas aussi solides. » Voilà, cet argument, je l'entends à peu près tout le temps. Et je vais vous donner mon avis sur ça. Alors, mon avis, c'est là que j'en ai pas parlé dans l'intro, mais je suis réparateur de vélo et l'avis que je vous donne n'engage que moi, mais en tout cas il engage le point de vue d'un professionnel de la réparation qui voit passer pas mal de vélos et pas mal de cas d'école, contrairement à quelqu'un qui peut vous faire une review, un test ou un test produit ou un retour d'expérience qui travaillerait par exemple dans un journaliste sport ou de la tech. Ou n'importe qui. Voilà, moi j'ai un retour. Ça vous donnera comme ça un panel. Vous faites à la fois l'avis que vous avez déjà, plus le mien, et vous faites votre mix, et ça vous donne un autre son de cloche, on va dire. Et vous pourrez vous faire votre avis. Donc voilà, je vous donne le mien, tel qu'il sort. Donc pour le vélo moderne, par rapport au vélo vintage, ce que je constate au quotidien, c'est que les vélos dits anciens, vintage, oui, ils sont robustes. Un vélo des années 70, on est en 2020. Effectivement, ça fait 50 ans qu'il est là. Est-ce que le vélo moderne sera là dans 50 ans? Eh bien, mon avis, c'est que le vélo vintage qui a 50 ans, très souvent, il a passé 30 ans dans une cave et il a juste pas roulé. Ou il a passé 20 ans. Enfin, vous avez compris l'idée. C'est que, en fait, on l'a ressorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et on s'aperçoit qu'il y a pas mal de problèmes maintenant, puisque les gens qui passent la porte, c'est qu'ils ont des problèmes. Ceux qui n'ont pas de problème, ils ne viennent pas. Et en ça, ça fait des vélos qui sont robustes, oui, mais ramenés à une utilisation quotidienne type vélo-taf, je ne suis pas certain qu'ils soient si robustes que ça, dans un usage permanent, quotidien, 15 km par jour. Faudrait faire le test, voilà, à titre de vraiment le comparer d'un point de vue objectif. Vous prenez le même vélo dans la même gamme, voilà, ramené au contexte de l'époque. Donc qu'est-ce que valait, par exemple, un Peugeot NS dans les années 70, et on prend le même Peugeot NS aujourd'hui en contemporain, et on les fait rouler en même temps, le même nombre de jours, dans les mêmes conditions. Et on voit au bout de 2 ans ce qui se passe. Ah ben, le raisonnement de l'argument « le vélo moderne est moins solide », je ne suis pas certain qu'il soit totalement fondé. Voilà. Parce que vous allez quand même avoir un vélo qui est beaucoup plus confortable, beaucoup plus résistant, que ce soit au pavé, voilà, au contexte. Et ça fait quand même une nette différence. Parce que les vélos vintage sortis à l'époque où ils sont sortis, ça je le dis à tous mes clients, à l'époque où on sortait des vélos dans les années 70, on n'avait pas le même usage du vélo. Il n'y avait pas des pistes cyclables aussi développées que maintenant, on n'allait pas aussi vite à vélo, et on n'avait pas le même besoin, la même utilisation, le même besoin. C'était beaucoup du vélo loisir. On allait le week-end, on sortait, enfin je dis « on », moi j'y étais pas. Mais voilà, c'était pas le même usage qu'aujourd'hui, par exemple, on fait du vélo taf. Aujourd'hui, le vélo, on prend, on va bosser avec, il faut que ça fonctionne. À l'époque, les gens le faisaient, oui, mais une grande partie, c'était juste du vélo loisir. Le dimanche, on sortait quand il faisait beau, quand il pleuvait, on prenait pas le vélo. Voilà pour l'argument que je pourrais donner. Donc oui, vous pouvez acheter sereinement des vélos modernes, toujours est-il, évidemment, en prenant des vélos un petit peu sympas, et pas même prendre des chinoiseries, ce serait peut-être déraisonnable. À ne pas mal interpréter, quand je dis chinoiseries, je parle de vélos très 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 bas de gamme, voilà, de grande distribution. Typiquement, vous allez à Carrefour et vous achetez leur vélo à 89 euros. Voilà, là, vous risquez d'être embêté très très rapidement. Hein. On ne parle pas sur le moyen terme. Dans les 15 premiers jours, vous allez déjà avoir des soucis. Voilà, mais on va dire un vélo dans les... Si vous commencez un vélo dans les 400 euros, vous devriez être à peu près serein. Et comme tous les prix ont augmenté, si un vélo Peugeot, par exemple, de l'époque, ramené aujourd'hui en valeur, c'est un vélo que vous paieriez à peu près, je pense, dans les 600-700 euros. C'est le budget qu'il faudrait prévoir pour avoir quelque chose de comparable. Donc, encore une fois, comparons le comparable. Et on passe tout de suite à la deuxième question. Pourquoi investir dans un bon antivol ? Alors ça, je l'ai énormément aussi. Plein de gens passent la boutique, veulent un antivol, mais ils veulent dépenser 15 ou 20 euros. Voilà. Et moi, les antivols que je vends, typiquement, ils sont plus à partir de 70 euros, jusqu'à 150 à peu près. Donc c'est plutôt des antivols haut de gamme, que ce soit en U ou en pliable, et je ne vends que la marque ABU. Petite parenthèse, il n'y a pas de placement de produit dans ce podcast. Hein. Je ne suis pas rémunéré, chaque fois je dis le nom d'une marque, mais voilà, comme je suis dans le shop, là, je regarde autour de moi et je vois mon présentoir, si je pouvais partager des produits, je le ferais. Après, s'ils ils veulent me donner de l'argent, évidemment, ils sont les bienvenus, hein, il n'y a pas de problème. Donc moi, je conseille mes clients fortement sur des U de qualité. Et l'argument que je leur donne tout le temps, parce qu'ils me disent « Oui, mais mon vélo, je l'ai payé 40 euros, je dis n'importe quoi, ou même 100 balles. Je ne vais pas mettre un antivol qui vaudrait plus de 20 euros, par exemple, en rapport du prix du vélo. » Et moi, ce que je leur dis, c'est si vous achetez un antivol à 20 euros, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous faire voler le vélo, vous allez devoir acheter un vélo et un antivol. Donc vous aurez doublement perdu, donc vous aurez perdu 100 euros du vélo plus 20 de l'antivol, vous aurez perdu 120 euros. Si vous achetez un antivol maintenant dans les 80 euros ou plus, non seulement vous allez garder votre vélo, vous allez garder votre antivol, et le jour où vous revendez le vélo, vous conservez votre antivol. Il est là l'argument qui, pour moi, fait mouche. Pour mon cas personnel, ça fait 3 ans que j'ai un antivol à 120 euros. J'ai changé 3 fois de vélo et mon antivol me suit. Je le conserve. Alors, évidemment, faut mesurer le propos du « vous n'allez pas vous faire voler votre vélo ». Évidemment, si vous le garez au bon endroit... Et dans les bonnes conditions. Voilà, si vous le laissez toute la nuit à côté d'une... dans les quartiers de la gare, à Bordeaux, typiquement, c'est là où se font voler le plus de vélos. Bah, là, quel que soit l'antivol, il y a des chances qu'il y passe. Mais on va dire, dans un usage normal, vous sortez même le soir ou en journée, vous garez votre antivol là où il y a d'autres... Vous garez votre vélo, pardon, là où il y a d'autres vélos visibles, avec un antivol de qualité, généralement celui qui veut voler un vélo, il se redirigera vers un autre vélo. Le vôtre sera extrêmement dissuasif. Il est là l'intérêt d'avoir un bon antivol. Et il est l'intérêt, c'est de le conserver à peu près tout le temps. De temps en temps, pensez à lubrifier la serrure. C'est important. Même un antivol de qualité, ça reste de la serrurerie. Et voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser un autre argument aussi. Sur les antivols, le premier prix. Même si c'est des U qui vous paraissent un peu haut de gamme, typiquement les U, même chez ABU, tiens d'ailleurs, comme ça contrebalance le placement de produit. Chez ABU, les premiers prix dans les 35-40 euros, les U ou les pliables. Ce qui va se passer, si on vous pique pas le vélo, que l'antivol ne casse pas, c'est vous qui allez vous auto-voler votre vélo. Parce que l'antivol, il restera bloqué. Je l'ai déjà vécu, j'ai pas mal de clients qui passent aussi la porte, j'en ai eu 3 pour l'instant. Où j'ai dû meuler l'antivol, voilà, parce que la clé, elle ne s'ouvrait plus, elle était cassée dedans, ou tout était totalement grippé, parce que c'était vraiment un entrée de gamme. Et comme il pleut beaucoup, ici à Bordeaux par exemple, ou même dans d'autres villes, si vous habitez une ville où il pleut pas mal, Pays Basque, le Nord, Lille, tout ça, voilà, pensez-y, quand il flotte, l'antivol, il n'aime pas, la serrure, elle n'aime pas, et il y a des chances qu'un jour, vous ne puissiez plus ouvrir votre antivol, tout simplement. Donc vous faites auto-piéger, bêtement. Donc, pensez-y, ça peut être rentable pour vous. Et je passe à la question suivante. Pourquoi réparer mon vélo si le tarif de la réparation dépasse le prix d'achat du vélo ? Alors, très concrètement, ça aussi, je l'ai énormément. Je crois que je l'ai plus que tout. Ce sera la dernière question d'ailleurs, et je l'ai... c'est énorme. Typiquement, quelqu'un vient et il a un problème, et je lui fais un devis, quel que soit son problème, je lui annonce par exemple 40 euros. 40€ pour réparer le vélo. Il me dit oui, mais le vélo, je l'ai payé 45€. Donc j'ai plus vite fait. Et il me dit j'ai plus vite fait de le revendre et d'en acheter un autre. Alors oui, sous réserve que celui qui va acheter n'ait pas non plus de problème. Raisonner comme ça. Mais maintenant, j'ai un autre point de vue là-dessus, et c'est ce que je dis quasiment à tout le monde. Je dis oui, mais si vous raisonnez comme ça relativement à votre achat, qu'est-ce qui se passe si on vous a donné le vélo ? À ce moment-là, dès que vous crevez, vous jetez le vélo, puisque forcément, ça aura un coût, une chambre à air ou quoi que ce soit. Généralement, voilà, il est là, l'argument, c'est qu'on ne peut pas... Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y aura un coût minimum d'entretien, quelle que soit la valeur de votre vélo. Que vous ayez un vélo d'occasion à 50€, vous ayez le plus haut de gamme à 6000€, enfin c'est pas le plus haut de gamme, mais on va dire un vélo dans l'autre spectre, on va dire. Vous aurez toujours des frais incompressibles à l'année, sur les pièces d'usure qui par définition s'usent. Vous aurez toujours des plaquettes ou des patins, en fonction de votre système de freinage. Vous aurez toujours des chambres à air, parce que vous allez crever à moins que vous soyez, et même tubeless, vous savez que vous avez un petit entretien à faire aussi, que ce soit sur le préventif, ou même vous pouvez crever tout simplement, hein, en tubeless aussi, ça arrive. L'usure des pneus, voilà. Alors ça, c'est pas annuel, mais on va dire tous les 2 ans, après bon, chacun a son usage du vélo en fonction du nombre de kilomètres qu'il parcourt. Mais vous êtes toujours des pièces d'usure à changer, sous réserve de ne pas avoir d'accident, évidemment. Et pour ça, il faut se prévoir une enveloppe. Moi, j'estime que 70€ par an, c'est pas déconnant. Voilà. En moyenne, l'entretien pour son bike, c'est ce qu'il faut prévoir. Les paires de patins ou de plaquettes, qui sont à peu près au même prix, x2, plus, allez, on va dire, 2 crevaisons à l'année, plus la main-d'œuvre, plus les câbles qui peuvent s'oxyder, qu'on va changer. Voilà, comptez 70€ par an, incompressible, et partez, mettez-vous ça en tête. Avant même d'acheter votre vélo, vous savez que vous les mettez, sinon ça risque de vous faire mal, ou vous dites « Ah, mais j'avais pas prévu, pour moi un vélo, ça... » Dans l'inconscient des gens, souvent un vélo, ça s'use pas. Voilà, ils ont leur vieux vélo, je ramène ça un peu à la question 1, c'est « J'ai mon vieux vélo, lequel a depuis 50 ans, on n'a pas mis un seul euro dedans, et pourquoi aujourd'hui on devrait le mettre ?» Bah, juste parce qu'aujourd'hui, tu t'en sers tous les jours. Voilà. Alors qu'avant, tu t'en servais pas du tout. Et tu te rends compte que, oui, ça a un coût, il y a des pièces d'usure. Et voilà, ça, je le dis aux clients en face à face. Quoi. Et généralement, ils le comprennent. 100% des gens l'entendent. Sinon, ils passeraient pas la porte. Ceux qui n'ont pas prévu de dépenser un euro, de toute façon, ils viennent pas dans les boutiques. Ils le réparent eux-mêmes ou ils ne le réparent pas. Souvent, je vois... Quand je roule, je suis des vélos, et la roue elle est de travers, il y a tout qui grince, il y a tout qui couine, la chaîne elle est prête à céder. Mais voilà, ce profil-là, eh ben, évidemment, eux, ils n'ont pas prévu de mettre un euro. Mais voilà, chacun a ses priorités de dépenses et je les entends. Il n'y a pas de problème, moi j'ai les miennes aussi, et voilà, chacun a ses priorités. Voilà à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce que je vais appeler le retour client ou quelques conseils que je pourrais vous donner comme ça, sur les cas que je vois le plus souvent. C'est d'ailleurs ces top 3, je suis désolé, au début j'ai dit top 5, mais de toute façon vous voyez le titre de l'émission, c'est bien top 3. Donc voilà, il n'y a pas de feinte, il n'y a pas de, comment dit Steve Jobs, de one more thing, non il n'y en a pas là, c'est bien top 3. Et je réfléchis pour le prochain épisode, j'ai déjà une thématique, peut-être. J'ai peut-être une thématique parce que là, j'ai reçu des Van Moof au shop parce que j'ai un partenariat avec la marque là et je vais faire leur atelier certifié. Voilà. Je vais faire centre d'essai. Si vous réservez un essai d'un vélo Van Moof sur le site, vous venez l'essayer directement dans ma boutique. Et si vous avez un problème avec un Van Moof, je fais le SAV de la marque. Et ça, je les ai reçus hier. Donc, je les ai déballés. Tout fonctionne. Je les ai mis là. Ils sont dans la boutique. Et je vais peut-être vous faire un podcast sur les Van Moof. Une présentation rapide. On ne va pas faire de déballage produit. Ce serait assez drôle, un déballage produit en podcast sans image. Je pourrais faire un podcast mytho. Je vous dis que je déballe n'importe quoi, des lingots d'or. Oh, il est beau. Bref, vous avez compris. Rendez-vous très vite, passez une très bonne journée, soirée, matinée, bon appétit et à très bientôt. Bye.